La justice à l'œil, le droit saisi par le cinéma. Un podcast présenté par Magali Flores-Longeau.
Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui de renouer avec une sorte de rituel. Nous retrouvons dans nos locaux, dans notre studio, Diana Villegas. Diana Villegas qui est maître de conférence en droit privé à Paris 2, Panthéon Assas. Et Diana Villegas qui accompagne ses étudiants, non seulement autour de ses micros, mais également pendant une année universitaire, autour d'une ouverture disciplinaire autour du droit. Bonjour Diana.
Bonjour Magali.
Alors, quel a été le programme cette année universitaire 2022-2023 pour tes étudiants ?
Cette année, dans les cadres du cours des droits et cultures, on a travaillé comme d'habitude sur trois axes thématiques, droit et littérature, droit et cinéma et droit et art. Pour l'axe transversal des droits et cinéma, on s'appuyait sur la thématique des droits et climat. Et on a eu des très très beaux travaux, soit sur des films de fiction, mais aussi des films documentaires.
Très bien. Et donc, parmi cette multitude de travaux, nous avons retenu la fiction de Richard Fleischer, Soleil vert. Et tu as à côté de toi un de tes étudiants qui a travaillé sur ce film avec deux autres camarades, mais il est seul représentant de son groupe, et c'est donc Elias Abed. Bonjour Elias.
Bonjour Magali.
Alors, racontez-nous un petit peu pourquoi le choix de ce film et est-ce que le groupe était convaincu de la pertinence de ce choix, le groupe dont vous êtes le seul représentant ?
Eh bien, nous étions vraiment unanimes. Je sais pour ma part, en tout cas, que le cinéma est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et alors, c'est un film assez récent, évidemment, dans l'histoire du cinéma, mais je trouve qu'il capture une époque, qu'il capture notamment dans la colorimétrie, quelque chose d'assez particulier et qui m'a intrigué dès le début. Mmh. Donc quand on a eu l'occasion, à l'occasion du cours de droit et culture, de nous pencher sur ce film, avec un regard écologique et un regard également juridique, hein, au niveau des libertés fondamentales, de la réification, de la fin de l'état de droit tel que nous le connaissons et nous l'analysons dans les sociétés libérales, ça m'a vraiment... paru assez pertinent de nous intéresser à ce film, Soleil vert en particulier.
Et le groupe également était convaincu du choix.
Mais je n'ai pas été le premier à proposer, donc je dois vous dire, le groupe était unanime et convaincu.
Et quel était le premier choix du groupe celui-ci?
On a vraiment envoyé plein d'idées en l'air, je ne sais pas si je me rappelle jour.
En tout cas, le choix est bon. Donc, Richard Fleischer, est-ce que vous vous êtes un petit peu documenté sur lui? Vous le situez dans l'histoire du cinéma à quel moment? Est-ce que vous avez, dans votre travail de réflexion préalable?
Alors, notre travail de réflexion, il a porté plus sur l'époque que sur le réalisateur en soi. C'est-à-dire que, évidemment, on s'est placé dans les années 70. Moi, à l'occasion de ce travail, j'ai lu notamment La bombe P de Ehrlich, qui est paru en 68, donc 5 ans seulement... Avant le film, Soleil vert, et j'ai trouvé que c'était assez pertinent dans la mesure où, effectivement, c'est une période où la population croît, notamment en Asie du Sud-Est, en Afrique, elle commence aussi, et donc c'est une époque qui commence à angoisser, qui est assez terrifiée à l'idée de la surpopulation, la bombe P de Ehrlich, c'est la bombe population, évidemment, et donc j'ai trouvé que ce film, Soleil vert, à la fois, il nous parle, parce que, évidemment, les problématiques écologiques nous semblent très proches et de plus en plus concrètes, et à la fois, c'est des angoisses qui remontent maintenant à 50 ans. Donc j'ai trouvé ce parallèle entre ce que nous en tirons, nous, et le regard que pouvaient porter des gens à l'époque sur ce type de problématiques assez fascinant.
Très bien. Ben, c'est une transition toute trouvée pour écouter le premier extrait.
Thank you.
Voilà, nous venons d'écouter ce premier extrait. Elias, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Où est-ce qu'il se situe dans le film et qu'est-ce qu'il a pour effet de provoquer chez le spectateur? Chez le spectateur que vous avez été, que j'ai été, que je suis, et que l'on est à chaque fois que l'on revoit ce film.
Bien, c'est une scène qui est assez différente du reste du film. C'est une pré-scène d'exposition, puisqu'elle nous situe avec des extraits
d'images, de photographies
qui ne sont pas tirées du film directement, mais qui nous situent quelque chose d'assez anxiogène avec un changement de rythme, une musique, je ne sais pas si vous l'avez relevé.
Je ne sais pas si vous l'avez relevé,
mais qui commence de manière assez dissonante. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste au début, et au fur et à mesure que le film et l'ambiance s'installent, on a une musique qui devient de plus en plus mélodieuse. Et donc, à mon sens, en tant que spectateur, on commence le visionnage en se disant « quelque chose n'est pas clair », mais on finit par s'habituer avec les images, avec la musique qui devient également de plus en plus agréable, à un état de fait qui, dès le début, est assez, assez atroce, hein, puisque on voit les gens grouillés, on a l'impression...
À la fin de la séquence.
À la fin de la...
Parce que le début de la séquence... Il faut expliquer aux auditeurs que nous sommes avec le pré-générique.
Oui.
Donc nous n'avons pas encore le titre du film, le nom du réalisateur, etc., etc. Nous avons une succession d'images, dans un premier temps qui sont relativement apaisées avec une musique agréable. Et en réalité, c'est l'arrivée. Les dernières décennies de la ville de New York.
Mais précisément, à mon sens, c'est le contraste entre les images... au début, et la musique qui, moi, me paraît un petit peu dissonante. C'est peut-être un avis personnel. Au tout début, ce contraste qui nous dit, très bien, la ville de New York, c'est quelque chose qui nous est familier, qu'on reconnaît. Toutefois, quelque chose tout de suite ne colle pas.
Je ne dirais pas qu'on la reconnaît, parce qu'au début, on a quand même l'image d'une campagne, puis après, on voit des habitats de plus en plus nombreux, jusqu'à arriver à la fin du pré-générique, avec le New York qu'il va nous décrire dans sa fiction. Mais au début, oui, c'est relativement calme.
Dans un sens, oui, mais il me semble que la séquence doit être prise dans l'ensemble.
Bien sûr, bien sûr.
C'est-à-dire que, précisément, ce début de la campagne, oui, il nous intrigue un petit peu parce que on devine au fur et à mesure la ville de New York, mais si vous voulez, on se situe quand même avant la fin de l'extrait, et après le début. Et donc, il y a cette idée que nous sommes dans un continuum qui commence à un endroit, à un moment donné, mais dont on ne connaît pas la fin. Et à ce titre-là, je trouve que la scène pré-générique est assez... assez dérangeante, précisément.
Tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une synthèse de son film?
Je ne pense pas que ça soit une synthèse au sens où cela dévoilerait ce que va nous décrire le film. En revanche, il me semble que ça donne à penser sur le sens et l'intérêt du film, la raison pour laquelle Fleischer a voulu le réaliser. Parce que, évidemment, l'écologie, au sens très large, est abordée dans le film, et c'est la transformation par l'homme de la nature. C'est également l'idée que l'homme s'est approprié et a avili la nature au fur et à mesure, qui conduit... comme un effet miroir, ça me fait penser à ce que disait Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, sur le colon, qui, en avilissant, en le colonisé, s'avilit lui-même, et sa culture et son âme s'étiole. Et il y a un petit peu cette même idée, ce parallèle, alors évidemment, on ne compare pas la colonisation et la destruction de la nature, mais de l'homme qui, par son action, et presque dans un sens hegélien de la dialectique du maître et de l'esclave, l'homme qui, par son action, se meut en quelque chose de différent, en quelque chose de beaucoup plus vil.
Tout à fait, oui. Mais le constat est terriblement amer à la fin de ce pré-générique, et on est dans une ambiance, dès que le générique va être fini, on va, voilà, il n'y a plus d'espoir.
Ah, on est absolument jeté à la fin de ce pré-générique dans quelque chose de complètement noir, de complètement dystopique déjà. Alors ce qu'on présage, et qui va se dessiner tout le long du film, pour ne pas relever l'ambiance, et précisément, ça retourne on en retourne et à ce que je vous disais au début, à savoir, oui, on est dans une époque qui commence à angoisser. Il y a les balbutiements de cette terreur climatique. Et je pense que ça le montre bien dans cette scène pré-générique.
Et la fin du pré-générique s'achève avec une sorte de carton sur lequel il y a écrit New York 2022. Or, c'est un film de 1972, sorti sur les écrans en 1973, donc un film d'anticipation. Et 40 millions d'habitants.
Oui. Voilà. Bah alors, heureusement, nous ne sommes pas à 40 millions d'habitants à New York, même s'il faudrait voir la banlieue. Je ne suis pas expert sur la population de New York. Je sais qu'elle est plus faible que ce qui est dépeint dans le film. Et bien heureusement, j'ai envie de dire. Mais oui, à nouveau, je pense que qu'il ne faut pas s'attarder nécessairement sur le côté vraisemblable du film, parce que ce qu'il a à nous dire est à la fois inscrit dans une époque, comme je n'ai eu de cesse de le répéter, mais surtout, il a un propos qui doit être détaché en fait, de ce côté vraisemblable. Oui, nous sommes en 2023, à l'heure où nous enregistrons ce podcast. New York a moins de 40 millions d'habitants. Toutefois, les problématiques abordées ne sont pas moins actuelles.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, nous avons très vite, une fois ce générique passé, nous voyons un personnage, enfin deux personnages, deux des personnages principaux. Premier personnage principal que l'on voit à l'écran, je vous laisse le décrire, le présenter.
Alors, c'est Frank Thorne,
oui.
Donc, qui est le personnage principal, qui est un détective un peu intrépide, qui va être celui à pas... depuis lequel on va nous découvrir l'action, on va découvrir à la fois le film, la société, telle qu'elle est dépeinte, à travers ses yeux qui, au début, sont presque ingénus, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où il vit dans...
disons, un taudis.
Dans un taudis, absolument.
Un taudis permanent à l'échelle d'une mégalopole.
Voilà, il y a des corps sur le sol, tout est sale, tout est assez, assez déprimant, surtout à nos yeux, qui ne connaissons pas ça. Et au fur et à mesure du film, notamment au contact de Saul Roth, de Solomon, qui est
son colocataire.
Qui est son colocataire. Mmh. Hein, voilà. C'est comme quoi la colocation, malgré la différence d'âge, ne pose pas problème. Parce que Saul est justement un vieux bibliothécaire qui, alors on s'y attardera plus tard, il me semble, qui a une forme de mémoire qui va permettre à Frank de sortir de son ingénuité et de comprendre au fur et à mesure, presque intuitivement, la vérité de ce monde. Et donc, tout commence.
La vérité perdue aussi.
La vérité perdue. Alors, c'est une question aussi qui a trait à la nature de la vérité. Qu'est-elle ? Y a-t-il une vérité de la nature humaine, de la manière dont on doit appréhender nos vies, nos droits, la manière dont on interagit les uns les autres ? Également, il y a des questions de cet ordre entre hommes et femmes dans le film. Et il me semble que Fleischer a vraiment eu la bonne idée de nous mettre uniquement dans la peau de Frank, parce que précisément ça nous immerge dans ce récit, avec des yeux qui au début découvrent, un peu comme Frank, qui n'a aucune idée de ce qui va se tramer au fur et à mesure.
Oui, parce qu'il faut le dire, en réalité, vous avez tout à fait raison, en le présentant comme étant le substitut du regard du spectateur, celui par lequel nous découvrons l'étendue des dégâts, de tous les dégâts, humains, sociaux, vis-à-vis de l'environnement au sens large du terme. Mais il est mobilisé dans cette affaire parce qu'il va mener une enquête envers et contre tout, parce qu'il y a eu un meurtre.
Absolument.
Voilà. Et donc, il passe ainsi de zone en zone, de groupes sociaux en groupes sociaux. Et donc, ça nous permet, grâce à cette enquête, c'est là aussi le moyen qu'ont trouvé les scénaristes et le cinéaste de nous faire pénétrer dans les arcanes de cette société, de cette société apocalyptique.
Oui, et particulièrement, en fait, le cheminement intellectuel de Frank Roth va être celui, il me semble, du spectateur, dans la mesure où on commence vraiment par l'anecdotique. Il y a un meurtre.
Comme il peut y en avoir.
Comme il peut y en avoir, voilà, j'espère que ça n'arrivera pas trop près de nous. Mais il y a des meurtres, et au fur et à mesure de l'enquête, qui d'ailleurs, en définitive, ne porte plus tant que ça sur le meurtre en lui-même, il y a une forme d'élargissement, à la fois de la vision de Frank, qui comprend ce qui se trame plus loin, plus profondément dans la société, et le spectateur qui, identifié à Frank, se rend compte plus largement des implications de l'enquête et ce que ça révèle sur l'état social et sociétal.
Alors, Frank est interprété par Charlton Heston et Sol, son ami colocataire, enfin, le colocataire dont on suppose qu'il lui a été imposé eu égard au manque de logement, mais finalement cette cohabitation se passe bien. Ils sont devenus compagnons de route et amis. C'est Edward G. Robinson qui était à la fin de sa carrière. Oui. Voilà, et qui était, on en reparlera, qui était malade. Et donc il est décédé quelque temps après. Voilà. Et il n'y avait que l'acteur qu'il savait, le cinéaste et Charlton Heston. Le reste de l'équipe n'était pas au courant qu'il était en fin de vie et que c'était son dernier rôle.
Bah, finalement, c'est un bel hommage que de lui avoir donné ce rôle, notamment au regard de ce qui lui arrive.
Dans le film.
Voilà, je ne sais pas si je dis vulgaire.
Non, pas encore. On va peut-être écouter le deuxième extrait, puisque là, nous avons une séquence qui est en contraste avec la première séquence où vous nous disiez elle est déjà anxiogène. Celle-ci, au contraire, ne l'est pas.
L'chaim.
Eaten like this in years.
I never ate like this.
And now you know what you've been missing. As the world wants you, punk.
Yeah, so you keep telling me.
When I was there, I can prove it.
I know. When you were young, people were better.
Oh, nuts. People were always rotten.
Well, the world was beautiful.
Voilà ce deuxième extrait. Nous étions dans une ambiance toute différente, toute apaisée. Est-ce que vous pouvez nous la décrire, hein, Elias ?
C'est une ambiance qui est assez ambivalente, précisément parce que les deux personnages...
Vous aimez l'ambivalence, vous voyez toujours de l'ambivalence dans les extraits.
Il y a une dialectique absolument formidable là-dedans, entre Sol, qui est vieux, et Frank, dans la mesure notamment où je pense que quelque chose d'assez... sensible et qui peut nous parler, c'est précisément que, en fait, Sol nous dit, un peu comme les personnes âgées aujourd'hui, c'était mieux avant. Or, c'est le cas. Et donc, il y a quelque chose d'assez ironique là-dedans.
Ah non, c'est pas exactement ce qu'il dit.
Ah, il me semble, dans la mesure
non,
où...
Non, il se remémore ses repas, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est un repas.
C'est un repas, absolument, oui.
Parce que, alors là aussi, on a oublié de présenter ça aux auditeurs, la société dans laquelle ils vivent tous les deux, où ils sont contraints de vivre, Quelle est leur nourriture habituelle?
Alors, c'est quelque chose qui s'appelle le Soylent Green, ou le soleil vert, dans la traduction française. D'ailleurs, je trouve la traduction un petit peu plus jolie, hein, puisqu'au niveau sémiotique, le soleil est quelque chose de l'ordre presque de la divinité, et c'est la seule nourriture. Donc, c'est finalement ce qui alimente toute la société, qui en est la substance. Et donc, c'est un monde dans lequel, à cause de la surpopulation, à cause de la destruction de la nature, les gens en sont réduits à manger ce qui est apparenté donc à une espèce de pâté verte et qu'on dit
pâté même trop gentil.
Oui, c'est un petit peu clément
on
que
dirait
de dire.
Des pastilles de la vaisselle.
Oui, alors
sauf qu'elles sont vertes, mais dans la forme et dans la taille. Hein.
Oui, ah non, mais pour le coup, il me semble vraiment que ça n'est pas quelque chose dont nous manquons aujourd'hui et voilà. Oui, donc ce qu'il faut préciser également pour les auditeurs, c'est que là, ils sont en train de manger un vrai repas, puisque Frank est allé, dans le cadre de son enquête,
dans un appartement
huppé. Chez des riches, pour dire assez simplement, chez ceux qui s'en sortent malgré tout, et il a volé de la nourriture. Il a volé, il me semble que c'est de la viande.
Hein. De la viande,
des légumes également.
Des légumes, ouais. Voilà.
Donc ce qui est absolument inédit pour lui, on l'entend dans l'extrait nous dire qu'il n'a jamais mangé ça, contrairement à Sol qui, lui, se remémore. En fait, finalement, ce n'est pas tant la nourriture que les souvenirs que la nourriture lui procure, qui l'importe et qui l'ingère à ce moment-là. Et donc, je trouve, à nouveau, donc, une ambivalence assez intéressante entre l'un qui nous dit, assez blasé, assez pessimiste, les hommes ont toujours été pourris. Et l'autre, qui, non sans acquiescer, lui dit, oui, mais la nature, au moins, elle était belle avant.
Ah, donc, voilà, la nature, voilà. D'accord.
Oui.
D'accord, oui, je pensais que c'était les hommes.
Non,
qui pensaient
les hommes,
que c'était mieux avant, d'un point de vue nature, mais également de point de vue humain. Et non, du côté humain, il sait que le mal était déjà là.
Non, mais précisément, si on a un raisonnement qui est juste assez logique, si avant, ça allait, et qu'il y avait les humains toujours pourris et la nature, que maintenant ça ne va plus, qu'il n'y a que les humains pourris et plus la nature, ma foi,
on voit la cause et
on voit bien
les
la cause et les conséquences. Oui, exactement.
Donc nous sommes ici avec cette scène de repas et je la trouve, moi, très, très parlante à plusieurs niveaux, parce qu'on est avec des gens qui se délectent. Donc il n'y a aucun dialogue, on entend juste les petits bruits liés au repas qui est pris, chacun qui est en train de se délecter des bouchées qu'il avale. Et je ne sais pas si vous y avez été sensible, mais comme visiblement l'inspecteur Sorn n'a jamais vraiment mangé de la vraie nourriture, celle que nous continuons nous à manger, il lui donne, le vieux Sol lui donne juste des petits extraits au début dans son assiette, pour voir s'il est capable de s'habituer, comme on le fait avec des enfants. Tu n'as encore jamais goûté ce plat, je te donne juste un petit peu pour que tu goûtes, et tu vois si ça te plaît, etc.
Mais oui, absolument. D'un côté, on a Sol qui est habitué, même si ça fait longtemps, il nous le dit, qu'il n'a pas goûté à de la vraie nourriture. Et de l'autre côté, on a donc Frank qui n'y a jamais goûté. Et autant les deux sont assez fascinés par ce qui se passe, autant ils ne le sont pas pour la même raison. À nouveau, l'un se remémore et est vraiment dans une délectation, comme vous venez de le dire. L'autre est plus dans l'expectatif. Il se demande ce que c'est. Il essaie de s'habituer, de comprendre les textures. C'est quelque chose qui est absolument étranger à tout ce qu'il n'a jamais connu. Et donc, je trouve effectivement ce silence assez parlant. Étonnamment, hein, ce silence assez parlant, dans la mesure où les deux sont complètement en recueillement, presque en communion devant cette nourriture, mais nous disent par la même interaction avec cette nourriture des choses complètement différentes sur eux.
Tout à fait. Nous sommes ici avec un vieil homme donc, qui a gardé non seulement la mémoire du monde d'avant, mais qui a gardé aussi les ustensiles, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'extrait, quand il... d'abord, il
absolument
met des couverts, il met une assiette, il donne, parce qu'il y a du vin aussi, il donne le seul verre qu'ils ont à son invité, alors que lui va boire encore dans une tasse. Et puis, il ouvre une boîte dans laquelle il y a des couverts en argent qu'il prête, puisqu'il considère que c'est un repas de fête à Sorn.
Il y a quelque chose de l'ordre du rituel,
du rituel.
En effet, et qui est d'autant plus intéressant que ça participe également de la stupéfaction de Frank, qui en fait se retrouve face à des codes qu'il n'a jamais connus. Bon, nous, en France, évidemment, on connaît le rituel du repas, et aux États-Unis aussi, visiblement. à New York, parce que voilà, l'un a décidé de profiter complètement de ce qui se passe, l'autre est un petit peu sujet, en fait, objet, pardon,
objet, oui, oui, objet.
De cette situation, et il apprend. Et
à mon sens, est à l'écoute. On est dans la transmission, là aussi, un vieil homme qui a de l'expérience. Et un plus jeune, parce qu'on ne va pas dire que c'est un jeune homme, c'est un homme qui est quand même relativement mûr, le personnage de Charlton Heston.
Et en même temps, on a à la fois une critique sociale, puisque les seuls qui peuvent se permettre de manger de la vraie nourriture, ce sont les personnes aisées ou les flics corrompus qui volent cette nourriture. Donc ça nous dit quelque chose quand même d'assez sombre également sur l'état de la société. Et d'un autre côté, il me semble que c'est le point de bascule d'un Franck ingénu qui commence à se rendre compte que oui, en fait, les œillères qui lui avaient été mises depuis sa naissance, et puis vous l'avez rappelé, il est un homme mûr quand même toutefois, c'est à partir de ce moment-là que ses œillères commencent à tomber.
Il est petit à petit dessillé, effectivement. Ouais. Mais vous avez raison, hein, les riches qui peuvent se permettre ce type de repas, et puis les flics corrompus. Parce que le personnage de cet inspecteur n'est quand même pas un respectueux de la loi à 100% dans son enquête.
Quelle loi, en l'occurrence ?
Ah, mais la loi, nous y reviendrons.
Nous y reviendrons, absolument.
Mais malgré tout, lors de cette enquête, même s'il n'a pas encore compris comment ces biens de grande consommation, pour nous, mais de consommation extrêmement sélective dans le film en question, sont acquis ou sont obtenus, malgré tout, il dérobe. Il outrepasse ses fonctions.
Absolument, et la manière dont c'est présenté, à mon sens... ne nous dit pas que c'est une mauvaise chose, en réalité. Parce que nous sommes dans la peau de Frank, et que finalement, par rapport aux autres policiers, il n'est pas tellement pire. Par rapport aux conditions dans lesquelles il vit, ce n'est pas si invraisemblable. Par rapport aux gens qui sont dans la rue, qui s'entretuent pour quelques rations, finalement, le vol de quelqu'un qui est riche et qui profite alors que d'autres ne profitent pas, n'est pas si répréhensible ou présenté de manière telle.
Oui, mais en même temps, il ne fera pas que voler de la nourriture. Il va s'approprier tous les biens de l'appartement huppé dans lequel il va revenir à plusieurs reprises.
Et c'est là, à mon sens, que la moralité est un petit peu plus floue, un petit peu plus grise. Parce que c'est également... comment dire ? C'est un système qui est très inégalitaire, qui a énormément de manières qui nous sont absolument étrangères de fonctionner. Et,
on l'espère.
Bah oui, on ose l'espérer, tout du moins. Et il me semble qu'on est plus dans un constat d'un état de fait que dans une appréciation morale de ce qui se passe. À aucun moment, il me semble, on se dit « Frank est une bonne personne ». Mais à aucun moment non plus, on se dit « Ah bah, vu les conditions dans lesquelles il vit, il se doit d'être une bonne personne. Il y a aussi ce côté un petit peu flou de la moralité quand tout s'effondre et quand être une bonne personne, au sens où nous l'entendons, n'est pas une bonne stratégie pour survivre, tout simplement.
Oui, parce qu'il est question de ça. Il est question effectivement de survie dans ce monde surpeuplé. Donc vous l'avez dit, hein, on est avec un film donc, qui a été fabriqué au début des années 70, qui s'inscrit dans cette mouvance hein, où la surpopulation combinée avec une industrie à grande échelle qui détruit la nature vont amener le monde à sa catastrophe. Parce que c'est une catastrophe écologique qui nous est ici présentée dans le film.
Alors si on regarde d'un point de vue... purement scientifique presque, les deux vont de pair. C'est-à-dire qu'une augmentation de la population, sans l'industrialisation, sans l'industrie agrochimique, ne peut pas fonctionner, puisqu'il y aura une famine. C'est ce qui a été prédit dans les années 30 en Inde, et d'ailleurs ce que les Britanniques ont partiellement organisé eux-mêmes. Mais l'utilisation de nouveaux engrais par des scientifiques allemands, à l'époque, a permis d'empêcher en grande partie cette famine. Et donc on voit l'augmentation de la population qui se régule par la famine, et c'est bien triste si on n'a pas l'industrialisation qui intervient dans ce processus. L'idée est que c'est une course sans fin, et on revient presque à la scène pré-générique où on a un début et une fin qui sont traversées par justement cette urbanisation, cette industrialisation, cette... technicisation de la vie humaine, c'est quelque chose que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, partout autour de nous, il n'y a que de la technologie. Rien que pour venir ici, moi j'ai pris le métro. le métro aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 100 ans. Et je suis très heureux d'ailleurs d'avoir le métro. Simplement, ce que nous apprend ce monde-là sur l'industrialisation, sur la nature, c'est que, population élevée et industrialisation ne vont pas de pair avec la nature. Si on veut la nature, il faut retirer l'un des deux.
Voilà. Et c'est le triste constat de ces premières minutes du film, hein, parce que à la fois le pré-générique et le deuxième extrait que nous avons écouté ne se situent pas très loin dans l'avancée du film. Et voilà, nous avons un constat qui est assez noir, qui nous est présenté et qui a été présenté effectivement au début des années 70 aux spectateurs qui n'imaginaient pas un New York ainsi. Enfin, nous, quand nous le regardons avec nos yeux de 2023, nous pouvons voir le hiatus qu'il y a entre la dystopie filmée et puis la réalité, même si, vous l'avez dit, le film garde encore un certain nombre d'éléments de pertinence, mais pour le spectateur de 1973, ça devait être une massue. C'était quelque chose qui était inconcevable.
Ah, c'est absolument une massue. Et ça a toutefois trait, à mon sens, à quelque chose qui est le mal du siècle, hein, au XXe siècle, c'est cette idée de dystopie. C'est-à-dire qu'on a une montée vraiment en enfer avec les premières et deuxième guerres mondiales. On a ensuite la guerre froide qui cristallise une tension perpétuelle presque, où les gens ont l'impression que du jour au lendemain, une bombe peut tomber sur la tête. Or, cette introduction d'un nouveau problème lié à l'homme en tant que tel, il me semble, n'est pas un très gros glissement par rapport à ces problématiques. C'est-à-dire que l'homme est la cause du mal. Il y a quelque chose de presque assez chrétien dans cette conception des choses où l'homme, c'est le péché originel, et son action impure par nature corrompt tout, y compris la nature. Et à l'époque où, précisément, on commence à voir, notamment au niveau scientifique, hein, c'est pas encore très concret pour la plupart de la population, la manière dont l'action humaine meut et détruit la nature, c'est vraiment la meilleure occasion de s'engouffrer dedans, parce que on est dans une époque qui est très anxieuse et qui nous a transmis maintenant cette anxiété à partir du problème climatique.
Merci Elias de nous avoir accordé cet entretien autour d'un paradis perdu.
Merci beaucoup Magali.
Et nous invitons évidemment les auditeurs non seulement à voir et à revoir ce film, mais à écouter les autres épisodes, puisque les étudiants de Diana Villegas ont continué leur étude de ce film qui est riche en approches, et c'est ce que nous allons voir dans deux autres épisodes. Merci Léobardo Arango, toujours fidèle aux manettes. Au revoir à toutes et à tous.